Non! Patiente, tu sais que je t'en donne.
Elle te manque, ta meute. Moi aussi. Je dois rentrer chez moi avant la chute de la première neige. Toi aussi, tu dois rentrer.
Allez, vas-y, arrête de me regarder. Vas-y, va-t'en!
Voilà, extrait du film Alpha, film américain sorti l'année dernière et qui raconte la domestication d'un loup par un jeune chasseur, Héloïse Rambert. Très bonne introduction à notre sujet.
Oui Mathieu, alors maintenant le meilleur ami de l'homme, c'est plutôt le chien. Il est tellement présent dans nos vies qu'on ne se demande pas forcément quand et pourquoi ce rapprochement s'est fait. C'est pourtant une question scientifique. Une nouvelle étude parue dans la revue Journal of Anthropological Archaeology nous apporte des données sur les circonstances de domestication du chien et son rôle dans la chasse à la préhistoire. Pour discuter de ces découvertes, nous sommes avec Jean-Denis Vigne au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous travaillez au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, les raisons, les circonstances de domestication du chien par l'homme, c'est quelque chose que la science connaissait mal jusqu'à présent ?
Eh bien, on savait que le chien avait été domestiqué dans plusieurs lieux, plusieurs régions de l'Ancien Monde, de l'Eurasie, il y a environ 14 000 ans. Mais ce qu'on savait pas bien, c'est les circonstances, effectivement, comme vous le dites, dans la mesure où sa domestication a été pratiquée par des groupes de chasseurs, et que contrairement à la domestication des ongulés, qui a eu lieu plus tard, eh bien, cette domestication du chien n'a pas entraîné de changement majeur apparent dans la vie de ces chasseurs.
D'accord. On se doutait quand même un peu que le chien jouait un rôle dans la chasse, aux côtés de l'homme.
Oui, dans la mesure où c'était des groupes de chasseurs, effectivement, c'était l'une de leurs préoccupations majeures, et on imaginait que la domestication du chien avait pu jouer un rôle dans les pratiques de chasse, mais on n'avait aucun indice à ce sujet, on avait juste des présomptions.
Alors qu'est-ce que nous apprend cette étude dans le détail à propos de cette collaboration chien-homme ?
Alors cette étude qui s'appuie sur la découverte dans un site de Jordanie vieux d'une dizaines, douzaines de milliers d'années. Cette étude nous montre, déjà met en évidence la présence de nombreux ossements de chiens associés au site d'occupation humaine. Et elle nous montre aussi que ces chiens ont été très rapprochés avec la vie de l'homme et qu'ils ont consommé des restes de repas humains, et elle apporte aussi des informations sur l'intervention de ces chiens dans des pratiques de chasse et peut-être même sur la modification des pratiques de chasse à cette époque.
Et je crois aussi qu'en Jordanie, il y avait des structures archéologiques qu'on pense être associées à la chasse. Est-ce que le chien aussi serait associé à ces nouvelles techniques de chasse ?
Voilà, justement, c'est à cette époque-là qu'on voit apparaître des techniques de chasse par rabattage de petits gibiers comme les gazelles ou dans d'autres régions des cervidés. Ce sont des structures qui, en fait, permettent de concentrer les groupes d'animaux chassés dans des enclos et de les abattre plus facilement. Donc, de pratiquer de la chasse en masse après avoir rabattu le troupeau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on imaginait que peut-être le chien avait pu jouer le rôle de rabatteur. Et là, on a des présomptions très fortes que c'est effectivement ce qui s'est passé.
Mais Jean-Denis Vigne, on a des traces archéologiques de ces enclos précisément pour pouvoir aller un peu plus loin dans les preuves qu'on souhaite apporter ?
Oui, tout à fait. On a des traces archéologiques qui sont connues depuis fort longtemps. Alors évidemment, c'est toujours très difficile de dater des enclos qui sont des murets de pierre, hein, finalement. Mais on a pu en dater quelques-uns et on montre que ces enclos apparaissent à ces époques-là, hein, l'époque de la domestication du chien. Et on connaît des enclos de ce type qui ont été utilisés pour la chasse dans tout le Proche-Orient durant les millénaires qui ont suivi et jusque même durant les périodes historiques. Donc on connaît de ce fait bien leurs fonctions et leur mode de fonctionnement.
Et vous parliez des ossements de chiens, hein, qu'on a retrouvés. Est-ce qu'ils ont aussi travaillé sur d'autres matériaux, les scientifiques, pour en apprendre plus ?
Alors, il y a des ossements de chiens et puis il y a aussi des ossements de gibier qui ont été ingérés par les chiens. Alors, on a des moyens de reconnaître les traces de ce qu'on appelle les traces de digestion, hein, qui sont des traces d'attaque que les ossements ont acquis en transitant dans le tube digestif des chiens. Donc ça, on reconnaît bien. Et on a dans ce site en particulier beaucoup de d'indices de ce type. Et puis on a aussi en parallèle l'accumulation, la prolifération d'ossements de petits gibiers, hein, lièvres, renards, qui témoignent d'un élargissement du spectre des espèces chassées à cette époque-là. Et les auteurs proposent, non sans raison, que le chien a pu aussi servir d'intermédiaire dans la chasse de ce petit gibier.
Et l'homme à cette époque était encore nomade ou il était sédentarisé ?
Alors, il était sédentarisé parce que ces groupes humains, il y a environ 15 000 ans, se sont stabilisés, du moins une partie des sociétés du Proche-Orient, se sont sédentarisés dans des petits hameaux. Et évidemment, la sédentarisation, ça génère un problème particulier, qui est que ces groupes humains exploitent toujours le même territoire et risquent, au bout d'un moment, de surexploiter les ressources qui sont aux alentours immédiats du hameau. Et la manière finalement de résoudre ce problème, ça a été d'élargir le spectre, c'est-à-dire de consommer du petit gibier qui était très peu exploité auparavant, de cueillir beaucoup plus un spectre beaucoup plus large de fruits, et c'est ce qu'on appelle l'économie du large spectre. Et donc il est probable que le chien a pu jouer un rôle dans ces différents types de chasse qui ont permis d'élargir le spectre alimentaire.
Jean de Livigne, qu'est-ce qu'on sait exactement du passage du loup au chien et est-ce que la domestication a pu participer à cette transition finalement ?
Oui, c'est effectivement la domestication qui a permis cette transition du loup au chien. Alors la domestication, c'est effectivement finalement l'intensification d'une relation préexistante. En l'occurrence, humains et loups sont des espèces qui sont chasseresses et qui chassent en groupe, hein, avec une organisation sociale qui permet cette chasse en groupe. Et finalement, le loup et l'homme ont pratiqué à peu près les mêmes chasses sur les mêmes types de gibier. Ils ont donc été en concurrence directe, mais ils ont pu aussi entrer en synergie, hein, en coopération pour la chasse. Et c'est un des scénarios qu'on envisage pour la domestication du chien. Peu à peu, les loups et les humains, ayant le même but, se seraient associés. Et le chien qui résulte cette domestication du loup, ayant finalement intégré la société humaine.
Donc ce chien, en final, il ne faut pas l'imaginer très différent physiquement du loup.
C'est-à-dire qu'au début, c'est un loup, hein, et puis très rapidement, et c'est comme ça qu'on s'en rend compte à travers les ossements archéologiques, très rapidement, sa taille diminue, et puis maintenant, on a des données génétiques qui montrent que la couleur de la toison de ces loups en train de devenir chiens s'était modifiée. On a aussi des indices génétiques de changement de régime alimentaire de ces loups qui ont commencé à s'alimenter de plus en plus de produits de la cueillette, donc de céréales, et du coup, ces changements-là sont aussi liés à la transition entre loup et chien.
Est-ce que du coup, ce sera notre dernière question, Jean-Denis Vigne, à cette époque, donc entre 10 et 12 000 ans, il y a une explosion, on pourrait dire, dans la domestication des animaux, parce qu'en dehors des chiens, il n'y a pas que cette maîtrise-là qu'on a pu justement opérer.
C'est-à-dire que le chien est quand même le tout premier, hein, c'est le tout premier animal à avoir été domestiqué. Et cette domestication, elle est particulière puisque elle relève d'une transformation au sein même des sociétés de chasseurs. La domestication du chat qui intervient un millier d'années ou deux milliers d'années même après la domestication du loup est liée plutôt à l'agriculture, hein, qui a entraîné l'accumulation de réserves dans les villages et qui a attiré des souris. Gibier principal des chats. Et puis la domestication des animaux à cornes ou du porc intervient, elle, beaucoup plus tard. Deux millénaires plus tard.
Merci beaucoup Jean-Denis Vigne pour ces précisions toujours passionnantes sur notre lien finalement à cet animal, le chien que nous aimons tant. Merci beaucoup à vous, Héloïse Rambert, on se retrouve
avec
demain.
Avec grand plaisir.
À demain, merci.
Merci, au revoir.